Chapitre 32. L'hôtel de Guillaume Tell. Ce que l'on appelle aujourd'hui la rue Pagevin se composait, il n'y a pas encore longtemps, de trois tronçons de rue, dont le premier aboutissait place des Victoires et s'appelait rue du Petit Reposoir, dont le second s'appelait rue Pagevin, et dont le troisième, qui débouchait rue Jean-Jacques Rousseau et formait un des côtés de l'hôtel des Postes, portait le nom de rue Verdelet. Dans le recoin qui confinait à la place des Victoires, on remarquait, à l'époque où se passe notre récit, un hôtel des plus modestes que recommandait au regard des passants un tableau placé au-dessus de la porte d'entrée et sur lequel un artiste en plein vent avait représenté l'épisode le plus touchant de la vie de Guillaume Tell. Au second étage de cet hôtel, dans une chambre qui prenait jour sur une cour humide et sombre, vivait depuis quelque temps un ménage qui, dans son genre, valait le couple que nous venons de voir à l'œuvre. Ce ménage était composé seulement de deux personnes. L'homme s'appelait Couriol, la femme Madeleine Brébant. Couriol, nous avons dit ce qu'il était. Il menait une vie dissipée, faisait un commerce interlope de bijoux, bagues, montres, pierreries, et entretenait des relations avec un monde plus que suspect. Il y avait entre autres avec lui, logeant dans le même hôtel, un ami du nom de Bruère qu'il entretenait et nourrissait, sans qu'on pût deviner quel genre de service cet homme pouvait bien lui rendre. Couriol était toujours mis avec beaucoup de recherche et il réalisait, dans son extérieur, l'idéal du muscadin du temps. Quant à la femme, c'était bien différent. Née dans les bas-fonds sociaux, elle y était restée plongée jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle avait grandi sans parents, sans amis, et son cœur seul lui disait parfois qu'elle devait avoir une mère. Car la Madeleine avait un cœur. C'était la seule chose que n'eût pas souillé en elle la fange dans laquelle elle avait vécu. Elle était grande, forte, bien prise dans sa taille, et à 16 ans, elle avait atteint le complet développement de sa beauté. Madeleine, pourtant, n'était pas heureuse. Au milieu de sa dégradation, elle avait des aspirations vers l'inconnu, et plus d'une fois, elle dut frissonner jusqu'au plus profond de son être en voyant passer près d'elle ces beaux jeunes gens de la mode dont la désinvolture la faisait rêver des jours entiers. Madeleine les confondait tous dans son admiration naïve. Aussi, quand un jour, sous les galeries du Palais Égalité, dans les environs du 113, elle rencontra Couriol, qui sortait de la célèbre maison de jeu, quand ce dernier, que le sort venait de favoriser au-delà de ses espérances, l'aborda en souriant, et lui parla dans cette langue des incroyables de l'époque, Madeleine ne put cacher son trouble, ni sa confusion, et ce fut avec une joie manifeste qu'elle répondit aux déclarations du muscadin. À partir de ce jour, toute sa vie changea. Elle n'avait jamais rien vu au-delà de cet horizon et ne chercha pas à donner l'autre but à sa vie. Toute son âme, tout son cœur, son être entier, enfin, s'attacha à Couriol et elle se mit à l'œuvre avec un dévouement d'esclave. Couriol était égoïste, un pertinent, vaniteux et sot. Mais Madeleine était aveugle. Que lui importait à quelles ressources mystérieuses il demandait la satisfaction de ses fantaisies et de ses caprices. Outre qu'elle n'était guère scrupuleuse sous ce rapport, elle avait été élevée dans un monde où nul professeur de morale n'eût fait ses frais. Pour tout dire même, pour que le lecteur connaisse bien la femme que nous lui présentons, nous ajouterons que le jour où Madeleine comprit à ce genre d'opération dangereuse auquel se livrait son amant, Elle en éprouva une ivresse profonde et sincère. De ce moment, en effet, Kouriol lui appartenait à jamais. Et dans ce monde, c'était le seul bonheur qu'elle désira. C'était l'été. Madeleine revenait du palais Égalité et allait rentrer à l'hôtel de Guillaume Tell, quand, au moment de pénétrer dans le sombre couloir qui conduisait à l'escalier, elle rencontra un homme qui paraissait hésiter à y entrer. À peine l'eut-elle aperçu qu'elle fit un mouvement de surprise. « Oh, monsieur le sûr !» dit-elle sur un ton incertain et vague. L'homme se retourna, étonné, et regarda l'abrément avec attention. « Le sûr ?» répéta-t-il. « Mais pourquoi m'appelez-vous de ce nom ? N'est-ce donc pas le vôtre ? En aucune façon !» Madeleine enveloppa l'inconnu d'un regard plus profond. « C'est étrange, dit-elle aussitôt. Maintenant, oui, je vois bien en effet que je me suis trompée, mais au premier abord, la ressemblance est inouïe. J'avais cru. » L'homme ne prit pas autrement garde à l'accident, et il allait passer outre quand il remarqua que Madeleine allait entrer comme lui dans l'hôtel. « Demeurez-vous donc ici ? » demanda-t-il avec intérêt. « Sans doute, répondit la jeune femme. « Et vous connaissez peut-être les locataires de l'hôtel ?»« À peu près. Quel est celui auquel vous avez affaire ?»« Bon, on m'a dit que son nom. »« Comment s'appelle-t-il »« Étienne Kouriol. » Un soupçon vint troubler l'esprit de Madeleine. Quel était cet homme qu'elle n'avait jamais vu ? Que voulait-il à Kouriol ? Et pourquoi cette allure mystérieuse et ces précautions qui sentaient la police ? Chapitre 33. La chasse à l'homme. Madeleine eut peur, et elle ne sut pas assez bien dissimuler ce qu'elle éprouvait pour que Dubos ne s'en aperçût pas. Il comprit tout et se mit à sourire. Allons, allons, dit-il avec bonhomie, rassure-toi, mon enfant. Les loups ne se mangent pas entre eux. Et si je demande Kouriol, c'est pas pour le faire de la peine. Je gage que tu es Madeleine Brébant. Oui, c'est vrai, dit Madeleine interdite. Eh bien, conduis-moi près de lui. Eh bien qu'il ne m'ait jamais vu, tu lui diras mon nom, et cela suffira pour qu'il me reconnaisse. Quel est donc votre nom ? Dubosc. C'était Dubosc, en effet. Il était à Paris depuis la veille. Le matin même, Claudine l'avait rejoint. Il allait faire quelques visites pour mettre à exécution une ingénieuse idée qui était venue à la jeune femme pendant le voyage qu'elle venait d'effectuer. En quittant Toulon, Claudine s'était dirigée sur Lyon, et là, elle avait pris la malle pour se rendre à Paris sans perdre de temps. Selon son habitude, elle portait des vêtements d'homme. Dès le premier relais, elle lia connaissance avec le courrier, et, tout en causant avec ce dernier, elle avait fait de curieuses observations. Ainsi qu'on l'a vu au commencement de ce récit, les malles-postes transportaient à cette époque des valeurs considérables tant en or qu'en assignat. Et Claudine remarqua quelle facilité les hasards du voyage pouvaient offrir à des hommes résolus qui tenteraient d'arrêter le courrier pour le dépouiller des valeurs qui lui étaient confiées. Ce n'était ni l'audace ni la résolution qui lui manquaient, et quand elle mit le pied dans Paris, son plan était arrêté. L'idée dont Dubosc allait entretenir Kouriol, c'était l'attaque de la malle de Brest. Il avait toutefois noué des relations étroites avec un courrier de la poste, et ce dernier s'était engagé à le prévenir du jour où la malle partirait chargée de valeurs importantes. Nous ne reviendrons pas sur des faits que nous avons surabondamment racontés. Le lecteur sait à cette heure comment les choses se sont passées et quel rôle chaque acteur a joué dans ce drame ténébreux. Mais pour l'intelligent de ce qui va suivre, il importe de rappeler en quelques lignes quelle était la situation de l'affaire au lendemain de la condamnation à mort de Durocha ou Laborde. L'homme dont on se préoccupait, ce n'était ni Laborde ni Vidal, c'était Dubosc. Ce Dubosc dont on avait tant parlé, ce sosie si souvent évoqué pour troubler les consciences des juges de l'Euzurk, ce mystérieux bandit à la perruque blonde et à l'éperon d'argent, qui semblait depuis l'assassinat du malheureux ex-coffon être devenu le bouc émissaire de ce sanglant procès. À tout prix, il fallait s'en emparer, puisque toutes les voix se réunissaient pour l'accuser, et que sa seule présence devait, disait-on, apporter la lumière dans ces ténèbres, faire rayonner jusqu'à l'évidence l'innocence du supplicié, et rendre l'honneur et la fortune à sa veuve et à ses orphelins spoliés par une loi cruelle. Au nombre des hommes sincères qui s'étaient voués à la rébellisation du Surc, au premier rang de ceux qui recherchaient sans trêve les preuves de son innocence, il faut placer le citoyen Emery, ingénieur, que des liens étroits d'amitié liaient à la famille du condamné. Appelé comme témoin lors du procès criminel et invité par le président à déposer sans haine, il avait osé répondre « Oui, citoyen président, je parlerai sans haine et surtout sans crainte, malgré ce que l'on fait ici pour l'inspirer aux témoins. » Après l'exécution de l'Euzurk, son courage, un moment ébranlé, s'était relevé, et comme Daubenton, comme Miller, le peintre et les autres amis de la famille, il attendait tout de l'arrestation de Dubosc. C'est à cette tâche qu'il s'était voué. Il avait pris à ses frais un agent courageux qu'il avait lancé sur les traces du bandit. L'agent était constamment par voies et par chemins, sillonnant la France de Marseille à Lille, de Strasbourg à Brest, attentif, ardent, toujours en éveil, flairant à la piste le couple étrange qu'on lui avait signalé. 20 fois il avait été sur le point d'atteindre l'homme, et 20 fois celui-ci lui avait échappé. Rien ne le décourageait. Malheureusement, il ne connaissait pas Dubosc. Tout au plus avait-il son signalement fort vague. Dans ces conditions, la recherche était difficile. Dubosc savait l'objet d'une surveillance incessante, et il s'observait. Chaque fois qu'il apercevait un visage suspect, il s'empressait de déménager. Depuis quelques mois, il avait changé complètement ses allures. Il habitait Le Havre. La perruque blonde était devenue une perruque brune. Il portait une espèce de carmagnole rouge, un bonnet de laine et des anneaux d'or aux oreilles. Un vrai matelot, il était méconnaissable. Claudine, de son côté, avait fait aux nécessités de la situation le sacrifice de son opulente chevelure. Elle portait les cheveux ras, un bourgeron qui enveloppait amplement ses hanches, un pantalon de drap qui cachait ses jambes. Bernard eût passé près d'elle sans s'arrêter. Ainsi transformé, il défiait l'œil le plus exercé. Il s'était logé à quelques pas du port, en cet endroit où depuis on a élevé l'hôtel Frassati. La mer venait déferler jusqu'au pied de leur cottage, et un bateau amarré à leur porte leur permettait, quand le temps était beau, d'aller faire quelques promenades en mer. Chapitre 34. La planche de salut. En un mois à peine, Claudine était devenue un mousse des plus habiles. Souvent, il leur arrivait de quitter la grève le matin pour n'y revenir que le soir. Il n'allait pas bien loin, mais il se laissait doucement bercer par la lame, et au milieu de cette immensité sans bornes, il leur semblait parfois que le passé s'était englouti dans ces vagues tumultueuses qui leur cachaient la terre et qui n'avaient plus rien à redouter de la justice humaine. Les malheureux n'avaient jamais pensé à la justice de Dieu. Un soir, après une journée entière passée au large, ils ralliaient le Havre porté par la marée montante. Claudine avait hissé sa petite voile grise et l'embarcation, soulevée par la lame, berçait la fatigue des deux amants qui recevaient en riant la poussière d'écume que le vent leur envoyait dans les yeux. La nuit était presque venue quand ils abordèrent. Claudine sauta à terre, retint le bateau par son amarre, pendant que Dubosc enlevait le mât et les avirons environ sur ses robustes épaules, et tous deux gagnèrent vivement le cottage. Comme ils approchaient, un même sentiment les fit s'arrêter en même temps. Sur le seuil, un homme les attendait. Quel était cet homme et que faisait-il là? La nuit était déjà trop avancée pour permettre de distinguer ses traits. Claudine avait serré la main de Dubosc en silence, comme pour lui dire de se défier, et celui-ci s'était mis sur ses gardes. Cependant, l'inconnu venait de faire quelques pas à leur rencontre, et s'adressant à Dubosc, « C'est vous, lui dit-il à voix basse, que l'on appelle Guillaume ?»« En effet, répondit Dubosc, mais vous-même, moi, je m'appelle Pinsard. » « Et qui êtes-vous ? Un ami ? Oh, qui me le prouve ? Mais la démarche que je fais en ce moment ? Dans quel but ? Il s'agit de votre liberté et peut-être de votre vie. Que signifie ? » Pinsard se rapprocha encore et baissa davantage la voix. « J'arrive de Rouen, continua-t-il. Et en route, j'ai rencontré plusieurs hommes. » qui m'ont paru suspects, et à quelques mots de leur conversation, il m'a été facile de comprendre qu'ils venaient pour vous arrêter.
Moi ?
Oui, vous vous appelez Guillaume, mais vous êtes Dubosc.
Qui vous l'a dit ?
Ils en sont convaincus.
Dubosc échangea un regard significatif avec Claudine.
Enfin, dit-il à l'inconnu, que venez-vous nous proposer ?
Une fuite prompte et sûre.
Mais quel est votre intérêt dans tout ceci ?
Vous ne devinez pas ?
Je cherche.
Écoutez donc, mais hâtons-nous car le temps presse. Vous n'êtes pas le seul des assassins du courrier de Lyon dont on veuille s'assurer. Et Vidal et Roussy ont le même intérêt que vous à se soustraire à la justice.
Et après ?
Et Vidal et Roussy sont au Havre depuis hier soir. Ils ont frété un bateau à leurs frais, et cette nuit même ils doivent gagner le large.
Eh bien,
ils vous offrent de partager leur sort, parce qu'ils connaissent votre intelligence, votre audace, et qu'en outre, ils préfèrent vous avoir avec eux que de vous laisser derrière.
Et vous m'assurez que les agents de police sont au Havre ?
Mais depuis ce matin, votre demeure leur est connue. Il n'attendait que votre retour pour venir ici s'emparer de votre personne. Tout cela était vraisemblable. Il fallait prendre un parti. Dubosc n'hésita pas. Il suivit donc l'inconnu, laissant à Claudine le soin du cottage, vers lequel il ne désespérait pas de revenir bientôt. Le trajet fut court. Ils suivirent pendant un quart d'heure environ le long de la côte, en remontant vers le nord, et ce bout de temps, ils se trouvèrent dans une petite crique au fond de laquelle s'abritait une pauvre cabane de pêcheurs. Dubosc n'avait aucune appréhension, il approcha sans défiance. « Est-ce vous ?» demanda une voix qui sortit d'une anfractuosité du rocher.
« Oui, c'est nous, » répondit Pinsard.
« Et peut-on approcher ?»«
Tout est prêt. »
À cette réponse, 10 hommes armés firent irruption de tous côtés et se précipitèrent sur Dubosc, le couteau ou le bâton levé. Mais la résistance était inutile. Le bandit ne l'essaya même pas. Il se laissa garrotter avec soumission. Il rentra dans le Havre où il fut écroué à la prison de ville et gardé à vue avec les plus minutieuses précautions. Cette fois, on ne voulait plus le laisser échapper. Pinsard ne se possédait pas de joie. Il avait réussi au-delà de toutes ses espérances, et dès cette nuit même il prit toutes les mesures d'urgence pour que Dubos fût transporté sans retard à Paris. L'effet de cette capture fut immense. Tous les journaux du temps la racontèrent avec les plus grandes louanges pour l'agent qu'il avait opéré, et quelques-uns même, sollicités sans doute par la famille, n'hésitèrent pas à escompter au profit de Le Surc le bénéfice de cette arrestation. Nous lisons en effet dans les Annales universelles du 30 mai 1797 « On vient d'arrêter le véritable assassin du courrier, celui pour lequel Le Surc a été condamné. Le Surc était donc innocent. Il a donné des preuves d'alibi et, sur le dire de quelques témoins qui ont cru le reconnaître, sur le résumé partial de Gobier, les jurés l'ont livré aux mains du bourreau. Cette note était maladroite. Les amis de la veuve Le Surc servaient bien mal ses intérêts en attaquant le jury à l'aide d'assertions mensongères. Du reste, cet acharnement qui se manifestait contre Dubosc allait faire naître en cet homme un sentiment nouveau dont les effets pouvaient être des plus dangereux pour la veuve même de Le Surc. Chapitre 35. Quel est le coupable? Quand il se vit encore une fois rejeté en prison, le célèbre bandit dont l'audace était loin d'être abattue se prit à réfléchir profondément sur sa position et passa en revue les chances d'évasion qui pouvaient s'offrir à lui. Claudine s'était hâtée de quitter le Havre et elle venait d'arriver à Melun. Elle savait que Dubosc était là et, obéissant à un aveugle dévouement, cette malheureuse, que l'on serait tenté d'admirer si elle n'était si méprisable, se mit, dès la nuit de son arrivée, à rôder autour du sombre monument. Avec l'aide de deux femmes qui avaient accès dans la prison, la veuve Franck et la fille Levasseur, elle réussit même à faire passer à Dubosc des limes, une corde et un couteau. Ces objets, pour le moment du moins, lui étaient inutiles. On l'avait mis au secret. On le surveillait étroitement. Il fallait attendre une occasion. C'est ce qu'il fit. Mais ce fut pour lui une situation nouvelle. Jamais encore il n'avait rencontré tant d'obstacles à ses projets d'évasion. Il en conçut d'une vive irritation, et tout son ressentiment, toute sa haine, se dirigèrent contre la cause réelle de ses difficultés. Cette cause, il l'avait compris tout de suite, c'était la famille Le Surc, la veuve surtout. Cette veuve à qui tout le monde s'intéressait, qui était réellement malheureuse, que chacun plaignait, et dont on désirait faciliter la réhabilitation. Or, pour atteindre ce but ardemment poursuivi par les amis de la veuve, il n'y avait pas d'autre moyen que d'obtenir la condamnation de Dubosc. Il fallait prouver que les témoins s'étaient trompés, et que l'homme à la perruque blonde, à l'éperon d'argent, c'était Dubosc, et non Le Surc. Dubosc ne se dissimula aucun des dangers de sa position. Il avait contre lui non seulement l'opinion publique, mais encore les autorités les plus considérables de la magistrature. Le ministre de la Justice n'avait pas hésité à s'adresser au directeur du jury d'accusation pour lui recommander particulièrement l'affaire. « Vous êtes sans doute convaincu, disait-il, de la nécessité de faire les plus grands efforts pour découvrir entre Le Surc et Dubosc quel est le vrai coupable. Bon, je n'insisterai point à cet égard auprès de vous, mais je remarquerai qu'il faut tâcher de rendre constant entre ces deux individus si la culpabilité de l'un entraîne nécessairement l'innocence de l'autre, ou si tous les deux peuvent être convaincus du même crime ou de quelqu'une de ces circonstances. » Oh, c'était clair et facile à comprendre. Jamais à aucune époque un criminel ne vit s'élever contre lui tant de préventions redoutables. et Dubosc ne pouvait se faire longtemps illusion sur le sort dont il était menacé. Alors, tout son être se révolta. Un cri de haine sauvage jaillit de sa poitrine, et sous l'affluence des longues nuits sans sommeil, exalté par la fièvre endémique des prisons, il prit une résolution infernale et prépara tout pour la mettre à exécution. Déjà, le jury d'accusation fonctionnait. On avait sursis à l'exécution de Durochat pour se réserver la possibilité d'une confrontation. La confrontation eut lieu et Durochat ou Laborde reconnut Dubosc pour un de ses complices du crime du pont de Pouilly. Tout cela n'avait qu'une importance relative. La plus intéressante confrontation était évidemment celle qui devait avoir lieu avec les témoins de lieux saints sur l'affirmation desquels Zurk avait été condamné. Si ces témoins reconnaissaient Dubosc et rétractaient leur première déclaration, la cause de Lesurque était gagnée, et il fallait réhabiliter sa mémoire. Mais si, au contraire, ils persistaient dans leur dire, s'ils se refusaient à reconnaître qu'ils s'étaient trompés lors du premier procès, il fallait admettre que la cause avait été bien jugée et qu'il n'avait aucune raison sérieuse de revenir sur le jugement. C'est ce que faisait ressortir l'acte d'accusation. À l'égard de Courriol et de Laborde, dit cet acte, la justice a requis la certitude de n'avoir puni en eux que des coupables. Mais à l'égard de Lesurque, la contradiction qui se trouve entre les témoins, qui l'ont affirmé reconnu, et les coupables, qui jusqu'à la fin ont persisté à le méconnaître et à le soutenir innocent, ceci est faux, d'ailleurs, ni Richard, l'ami de Lesurque, ni Bernard n'ont protesté en sa faveur. Laisse encore aujourd'hui à douter si Lesurque a été puni justement ou s'il n'a été qu'une malheureuse victime du concours de plusieurs circonstances funestes propres à le rendre suspect et surtout d'une fatale ressemblance avec Dubosc, capable d'avoir induit dans une erreur excusable la plupart des témoins entendus contre lui. La ressemblance est manifeste, sans doute. Elle est même presque invraisemblable, si l'on s'en rapporte au signalement. Et cependant, voyez ce qui se passe aux confrontations. Presque tous les témoins reconnaissent en effet qu'il y a dans les masses et les aspects des deux individus, Lesurque et Dubosc, quelques rapports généraux, mais que, dans les détails et dans les traits de leur figure, il ne se trouve aucune ressemblance qui puisse les induire à penser qu'ils ont commis une erreur. Rapport de M. Zangiocomi. Seule la femme Alfroy trouve que Dubosc ressemble à Lesurque, avec les sourcils et les cheveux plus bruns, l'œil moins bleu et les cheveux moins fournis. Elle ajoute que, pour éclairer ses doutes, elle désirait que Dubosc lui fût présenté avec une perruque blonde. Ce vœu, exprimé également par Champeau et sa femme, fut pris en considération et l'on décida que Dubosc paraîtrait au débat avec la perruque blonde réclamée. On était au 26 Floréal. L'acte d'accusation comprenait, avec Vidal et Dubosc, Claudine Barrière, dont la complicité avait paru manifeste à tous les jurés, et qu'elle-même n'eût pas nié d'ailleurs si elle avait pu être interrogée à cet effet. Mais depuis quelque temps, Claudine avait disparu, et toutes les recherches tentées pour la retrouver étaient restées infructueuses. Un fait curieux s'était passé peu de jours après l'arrestation de Dubosc, et pour ne rien oublier de ce qui peut mettre en lumière le caractère de cette femme étrange, nous devons le raconter. Chapitre 36. La jambe cassée. Nous avons dit que, à peine arrivé du Havre à Paris, son premier soin avait été de rôder autour de la prison de Melun et de faire parvenir à son amant tous les objets qui pouvaient faciliter son évasion. Malheureusement, la police avait l'éveil. Elle épiait tous ses mouvements, Et une nuit, Claudine est subitement appréhendée, jetée en prison à son tour et traduite finalement devant le jury de Versailles sous la prévention d'avoir voulu favoriser l'évasion d'un criminel. La jeune femme est introduite devant les jurés. Elle se présente sans forfanterie comme sans faiblesse, puisant dans la profondeur de son amour et de son dévouement le calme et la présence d'esprit que l'appareil de la justice est impuissant à lui enlever. Le président l'interroge. « Vous êtes accusé, lui dit-il, d'avoir fait introduire dans la prison de Melun des outils qui devaient aider Dubosc à se soustraire à la justice. » « Je le sais, citoyen président, » répond Claudine. « Reconnaissez-vous que vous êtes rendu coupable de ce fait ?»«
Je le reconnais. »
« Mais c'est de l'impudence !»«
Non, citoyen président, c'est de l'amour. »«
Étrange et coupable amour, en tout cas. » Claudine releva le front et une splendeur sereine sembla l'éclairer tout entière.
« Depuis le jour où j'ai rencontré Dubosc, répondit-elle avec fermeté, nos deux existences n'en ont plus fait qu'une. Plaisirs ou chagrins, joies ou douleurs, tout a été commun entre nous. Séparés ou réunis, nos cœurs n'ont pas cessé un moment de battre à l'unisson, et je n'aurais rien à redouter de la vie si j'étais assuré de mourir du même coup qu'il frappera. Étrange ou coupable, citoyen président, cet amour est ma vie, et nulle catastrophe ne pourra jamais l'ébranler.
Mais ce que vous avez fait est contraire aux lois.
Je ne connais pas les lois.
Enfin, vous êtes en guerre avec la société.
Je ne connais qu'une société, c'est Dubosc. Je n'ai appris qu'une loi, c'est notre amour. Mettez-moi en prison, enfermez-moi, punissez-moi, vous n'obtiendrez pas d'autre réponse ni d'autre satisfaction.
C'était la première fois qu'un pareil langage était tenu devant un jury.
Il impressionna profondément les auditeurs. Et alors il se passa une chose inouïe. Cette femme, qui avouait sa complicité, dont la naïveté devenait de l'audace, qui se parait de sa bonté comme une autre se fût parée de sa vertu, cette femme réussit à étonner ses juges et à se les rendre sympathiques. Au contraire de la frinée antique, elle n'avait eu qu'à dévoiler son âme sincère pour émouvoir le sévère aéropage qui l'écoutait. Elle fut acquittée. Et c'est depuis ce moment qu'elle avait disparu. Instruite par l'expérience, craignait-elle de retomber une seconde fois entre les mains de la police? Devait-elle écouter désormais la voix de la prudence? On le supposa. Il en était rien. La veille du jour où les débats allaient s'ouvrir, une femme se présenta à la geôle de Versailles et demanda à être écrouée. C'était Claudine. Elle avait appris qu'elle était comprise dans l'accusation et elle venait se constituer prisonnière. Cet acte ne surprit que ceux qui ne la connaissaient pas. Ceux qui la connaissaient ne se trompèrent pas sur les motifs qui lui avaient dicté cette résolution. On n'attendait plus que l'arrivée de Richard, qui subissait sa peine à Rochefort et dont la comparution au débat avait paru importante à l'accusation. Des ordres avaient été donnés à cet effet et il devait être amené le lendemain même. Or, le lendemain, quand on se présenta à la cellule de Dubosc, on s'aperçut avec une profonde stupéfaction qu'elle était vide. Dubosc, c'est le héros de l'évasion. Et pendant que l'on activait tous les préparatifs du procès criminel, il s'était concerté avec Vidal, enfermé sous le même toit, et les deux forçats avaient audacieusement tenté l'escalade des murs de leur prison. Il faut croire qu'à cette époque, les prisons n'étaient pas aussi bien gardées qu'elles le sont aujourd'hui. Cette fois seulement, Dubosc ne fut pas aussi heureux que les précédentes. En escaladant le dernier mur, le pied porta à faux.
Le corps fit un mouvement maladroit, il s'abaissa lourdement sur lui-même. Quand il voulut se relever, il s'aperçut qu'il avait la jambe cassée. Les hommes que l'on avait envoyés à sa recherche le trouvèrent dans un fossé et n'eurent aucune peine à le prendre. Vidal, lui, avait réussi à s'évader. Quelques heures après, Dubosc était donc réintégré à l'infirmerie où le citoyen Duclos, le médecin de la prison, s'empressait de lui prodiguer ses soins. Trop d'intérêt était attaché à la vie du célèbre criminel pour que l'on ne poussât pas, par tous les moyens possibles, à sa prompte guérison. Dubosc, sous ce rapport, était sans aucune appréhension. Il se laissait soigner avec une docilité exemplaire, suivait rigoureusement les prescriptions de la faculté et manifestait en toutes circonstances la plus vive impatience de voir arriver l'heure de son rétablissement. À plusieurs reprises même, il avait témoigné au médecin le désir de sauter à bas de son lit et d'essuyer et d'essayer les effets du traitement qu'on lui faisait suivre. Le médecin le gourmandait à ce sujet. « Du calme, mon ami, disait-il. Chaque chose vient en son temps, et Paris ne sait pas faire d'un jour. Si vous cédiez aujourd'hui à la fantaisie de faire un pas, ce pas retarderait peut-être d'un grand mois votre heure de guérison. De la patience, donc, et fiez-vous à la faculté qui en sait plus long que vous. » Le citoyen Duclos était un excellent homme, mais c'était un médiocre médecin. Et pendant qu'il parlait de la sorte, la lèvre de Dubosc se plissait d'un fin et ironique sourire. Chapitre 38. Projet infernal. Pour ne rien sceller au lecteur, nous devons lui confier que depuis plusieurs jours déjà, Dubosc avait essuyé cette jambe qu'on lui conseillait de tenir en repos. Et à vrai dire, il avait été content d'elle. La comédie était bonne, si bonne que, grâce à son état, la surveillance était relâchée autour de lui et que les gardiens allaient et venaient sans s'occuper de ce qu'il faisait. Quelques esprits mieux avisés avaient bien appelé sur ce point l'attention du médecin, mais ce dernier s'était contenté de hausser les épaules. « Laissez, laissez, répondait-il d'un air... Docte, oh, je déposerai ce soir, si vous le voulez, toutes les clés de la prison sous son oreiller, et vous verrez demain ce qu'il aura pu faire. » On ne poussa pas la bienveillance jusqu'à tenter l'essai proposé par le citoyen Duclos, mais Dubosc n'avait pas besoin non plus qu'on y mît tant de complaisance. Une nuit donc, il quitta le lit sur lequel il reposait depuis plusieurs mois, s'habilla à la hâte, traversa les salles sous un costume préparé d'avance et descendit prendre l'air dans les cours désertes. Puis, familier avec les détours du sinistre établissement, il gagna la porte du bâtiment dans lequel étaient enfermées les femmes et alla chercher Claudine qui l'attendait. Claudine s'était fait écrouer pour lui, il ne voulait pas partir sans elle. Le lendemain, on battait toutes les routes, on fouillait tous les coins de la capitale, on mettait un pied toutes les brigades de la surveillance active, sans parvenir à trouver la moindre trace des deux fugitifs. Cela tenait du prodige. Le citoyen Duclos n'en revenait pas. Il s'était presque attaché à son malade et il n'était pas éloigné de voir, dans le fait de l'évasion de Dubosc, une inconvenance à son adresse. Dubosc le comprit-il ainsi? Nous ne saurions le dire. Seulement, ce que nous pouvons ajouter, c'est que 15 jours après sa disparition, la poste de Paris apporta au citoyen Duclos une lettre d'une écriture inconnue qu'il s'empressa d'ouvrir. La lettre était de Dubosc et ne contenait que ces lignes. L'artiste inestimable qui conserve les membres les plus précieux à l'existence nous rend, selon moi, un service infiniment plus grand que nos pères, qui, en nous donnant le jour, ne suivent que l'instinct et la routine commune à tous les animaux. Le citoyen Duclos ne fut pas du reste le seul qui reçut des nouvelles de Dubosc. Le juge d'Aubenton eut, paraît-il, la même faveur, et des lettres lui parvinrent dans lesquelles les plus épouvantables menaces lui étaient adressées. Nous avons dit qu'une idée horrible était venue à Dubosc et qu'il avait formé un infernal projet. Le misérable forçat ne s'était pas trompé sur la cause de l'acharnement que l'on mettait à le poursuivre, et dans son rêve de vengeance, c'est à la veuve de l'usure qu'il s'en prenait surtout. Dès qu'il fut libre, il n'eut pas de repos qu'il n'eût mis à exécution le projet qu'il avait conçu. Mais il fallait concilier l'audace que réclamait l'exécution avec la prudence à laquelle l'obligeaient les recherches dont il était l'objet. Pinsard, l'agent du citoyen Emery, s'était remis en campagne et il serrait de près le couple criminel. Les hommes qui travaillaient avec lui venaient chaque soir lui rendre compte des investigations de la journée, et bien que, jusqu'alors, aucun indice certain n'eût été découvert, cependant on était sur les traces du bandit, et l'on pouvait espérer qu'avant peu on parviendrait à s'en emparer de nouveau. Une nuit, Pinsard était dans son cabinet lorsque l'un de ses subalternes demanda à lui parler pour affaire urgente. On le fit entrer. « Ah, c'est toi, Firmin, dit Pinsard en l'apercevant. Eh bien, qu'a-t-il de neuf ?»« Oh, pas grand-chose, citoyen, répondit l'agent. Seulement, je crois être sur la piste. »« Vraiment ?»« Oui, depuis cette nuit. »« Et qui te le fait supposer ?» Firmin se rapprocha de Pinsard. Ben voici, dit-il. Cette nuit, vers 2 heures du matin, je rôdais dans la rue de Charonne, auprès de la maison qui porte le numéro 95. Pourquoi faire? Ben, une idée. Il me semblait que j'en prendrais quelque chose de ce côté. Et qu'as-tu appris? Ben, la maison se compose d'un corps de bâtiment qui donne sur la rue, et d'un jardin entouré de murs dont la contenance peut atteindre un arpent. Après, alors j'étais donc, depuis un quart d'heure, caché dans l'ombre de la porte d'une maison voisine, quand un particulier passa près de moi sans m'apercevoir. Quel était cet homme? Dubosc. Seul? Oui, d'abord, mais 5 minutes après, quelqu'un va le rejoindre. Claudine? Toujours. Et que venait-il faire là, à cette heure? « Mais je l'aurais pas demandé, répondit ironiquement Firmin, car il n'eût pas été prudent de me montrer. Mais c'est un renseignement que l'on pourra obtenir ce soir même. »« Ils doivent donc y retourner ?»« Oh, du moins, s'y sont-ils donné rendez-vous ?»« Dans quel but ?»« Oh, je crois l'avoir deviné. »« Et quel est-il ?» Firmin se pencha à l'oreille de Pinsard et lui dit à voix basse quelques mots qui firent frémir l'agent secret. « Et quoi ? S'écria-t-il, l'assassiner ? Elle, mais ce serait horrible ! Croyez-vous qu'il n'en soit pas capable ? Tu as raison, mais nous sommes prévenus, il sera facile d'aviser. Voyons, tu vas convoquer toute la brigade, et ce soir, à la tombée de la nuit, je distribuerai à chacun le rôle qu'il devra remplir. » « À ce soir, alors, monsieur Pinsard ?»« Oui, à ce soir, à ce soir. » Chapitre 38. Le jardin du deuil. Dans la journée qui suivit, Pinsard se rendit dans la rue de Charonne, déguisé en fort de la Halle, et tout en montant la rue, il se mit à examiner avec attention les maisons qui avoisinaient le numéro 95. Le 93 était précisément occupé par un marchand de vin qui, par allusion au numéro dont le hasard avait gratifié sa demeure, avait fait peindre au-dessus de sa porte un des épisodes les plus terribles de la Révolution. Pinsard entra chez ce négociant patriote, se fit servir un modeste déjeuner, et quand il se vit sur le point de terminer son repas, il fit venir son hôte. Ce dernier accourut aussitôt. « Citoyen, lui dit alors Pinsard, je suis un agent de police et je vous ai fait demander un entretien particulier parce que j'ai certaines choses graves à vous confier. » « À moi, des choses graves ?» fit le marchand de vin. « Oui, voici ce dont il s'agit. Vous n'ignorez pas qu'en notre qualité d'agent de police, nous sommes journellement appelés à procéder à l'arrestation d'anciens forçats, de voleurs émérites, qui nous font parfois de singulières et bien curieuses révélations. » Le marchand de vin se prit à rire. « Ah, le fait est, répliqua-t-il, que ces messieurs doivent en avoir de drôles dans leur sac. Drôles, si l'on veut. Ainsi, pas plus tard qu'hier, un de ces misérables échappés du bagne de Toulon, arrêté par les soins de la brigade que je dirige, m'a fait la confidence d'un complot qui a été marourdi ces jours derniers contre vous. « Hein ? Contre moi ?» fit le marchand de vin. Oui, cette nuit, ou à coup sûr, une des nuits prochaines, des voleurs doivent, dit-on, s'introduire chez vous, en escaladant les murs de votre jardin ou ceux de la maison voisine. Et une fois introduits, vous dévalisez même, vous assassinez s'il y a lieu. Mais c'est infâme, n'est-ce pas? Et la police ne fait rien? La police fait son devoir, puisque vous voyez qu'elle m'envoie vers vous. Mais pourquoi faire? Pour vous protéger. Mais comment? Pinsard s'était levé. Il entraîna le marchand de vin dans la cour et de là dans le jardin. « Voyons, lui dit-il alors, il n'y a aucun danger à vous révéler nos plans. Aucun, je vous le jure. Vous allez être discret, comme la tombe. D'ailleurs, il s'agit de votre fortune, de votre vie même, et vous êtes le premier intéressé. » Parbleu! Eh bien, cette nuit, 8 hommes de ma brigade viendront s'embusquer dans votre jardin. Ils seront armés. Ce sont des hommes résolus, et au moindre signal, ils s'empareront des voleurs. Voilà qui va bien. Seulement, pour que je puisse prendre des dispositions utiles, il est nécessaire que vous me donniez tous les renseignements dont j'ai besoin. Parlez, parlez. Ce jardin où nous sommes est voisin d'une maison qui porte le numéro 95. En effet, qui habite cette maison? Le 95? Oui, le 95. Ben, vous l'ignorez donc, puisque je vous le demande. Le visage du marchand de vin s'était assombri tout à coup. Il garda un moment le silence. Puis, prenant le bras de Pinsard, il le conduisit jusqu'à une espèce de belvédère dont la plateforme couronnée d'une tonnelle dominait le jardin voisin. Une fois qu'ils eurent atteint le sommet de la plateforme, le marchand de vin étendit le bras et indiqua à l'agent un groupe composé de 4 personnes, une femme et 3 enfants, que l'on distinguait à peu de distance. La femme et les enfants étaient vêtus de deuil. Pinsard devint attentif. « Et quelle est cette femme ?» demanda-t-il avec curiosité. « C'est elle !» répondit le marchand de vin. « Mais qui est-elle ? » « La veuve !»« Quelle veuve ?»« Eh ben, celle de l'assassin, du supplicié, la veuve Lesure, quoi !» Chapitre 39. Le jeune prince. Il y eut un moment de silence. Pinsard ne connaissait que M. Henry. Il n'avait jamais vu la veuve Lesurque. Une poignante curiosité s'était emparée de lui. La malheureuse mère, entourée de ses 3 enfants, était assise à quelques pas de la pauvre maison qu'elle habitait, et le front courbé, l'attitude brisée, elle se livrait avec une sorte d'activité fébrile à des travaux de lingerie. À ses côtés, ses enfants allaient et venaient, respectant, au milieu de leur jeu, l'immense douleur dans laquelle s'absorbait leur mère. De temps en temps, cependant, celle-ci relevait les yeux et interrompait brusquement son labeur. D'un regard incertain et vague, elle embrassait le modeste enclos qui bornait son horizon. Quelques arbres fruitiers, des plantes potagères, de rares buissons de fleurs. Mais elle regardait sans voir. Sa pensée n'était pas là. Elle était tout entière à cet épouvantable passé, sous l'ombre duquel se dégageait toujours la même image, le même fantôme mutilé. Elle ne voyait pas autre chose. Même elle avait fini par s'habituer à cet atroce spectacle. Elle avait des intermittences de raison et d'insanité. Elle ne pleurait plus. Elle ne souriait plus à ses enfants. On eût pu croire que son amour d'épouse et de mère s'était abîmé dans l'horrible tempête qui avait englouti toutes ses illusions. « Y a-t-il longtemps que cette pauvre femme habite ce quartier ?» reprit bientôt après l'agent Plansard. « Oh, quelques mois seulement, » répondit son interlocuteur. « Et que fait-elle ?» Elle travaille le jour, la nuit, toujours. Oh, c'est une brave et digne femme, allez, et qui n'a pas mérité son sort, celle-là. Vous avez raison, mon ami, il faut la plaindre. Mais voyons, maintenant que j'ai vu ce que je voulais savoir, je crois qu'il est temps de me retirer. Mais vous reviendrez ce soir. Bien entendu, avec une escorte. Comptez sur moi. Tout en parlant ainsi, Pinsard avait gagné la porte de la rue. Avant d'en franchir le seuil, il se tourna vers le marchand de vin. « Une dernière question, lui dit-il. Vous habitez seul, la maison. Tout seul, citoyen. Et vous ne donnez jamais à coucher. Jamais. Bon, enfin, vous n'avez pas de locataire. Oh, ça, c'est autre chose. » « Depuis 3 jours, j'ai loué la mansarde qui donne précisément sur le jardin voisin. Et à qui ? Un jeune homme. Comment l'appelez-vous ? Prince. Vous le connaissez ? Pas du tout, non. Que fait-il ? Rien. » Pinsard fronça le sourcil. « Diable ! » fit-il d'un ton air soucieux. « Cela contrarie mes plans. »« Mais pourquoi donc ? Dame, ce jeune homme peut donner l'éveil sans le vouloir. »« Bon, si vous croyez que lui, l'affaire est bonne. Figurez-vous que le gaillard, depuis qu'il m'a loué ma mansarde, n'a pas couché une nuit chez lui. »« Ce serait différent, seulement. Savez-vous que c'est très suspect, une conduite pareille. »« A-t-il des papiers, votre locataire ?» « Il a un passeport en règle. Pouvez-vous me le montrer ?»« Avec d'autant plus de facilité que je lui ai demandé ce matin et que je l'ai encore sur moi. »« Voyons donc. » Pinsard déplia le passeport qu'on lui remettait. Mais il ne l'eut pas plus tôt parcouru qu'il réprima un mouvement de surprise et presque de joie. « Eh bien ?» demanda le marchand de vin. « Bon, c'est parfait, » répondit l'agent. « Vous êtes rassuré sur mon prince, comme s'il était des nôtres. Cependant, s'il rentrait par hasard avant mon retour, ne lui dites rien de ma visite. M'en garderai bien. À bientôt alors, citoyen. Au revoir et surtout revenez avant la nuit, car si vous êtes rassuré, moi, je ne le suis guère. » Le marchand de vin avait bien promis de ne rien dire, et vis-à-vis de tout locataire ordinaire, il eût certainement tenu sa promesse. Mais le jeune prince n'était pas un locataire comme les autres. Il s'était présenté en payant 1 mois d'avance, et à propos de tout et de rien, il se livrait à des libéralités auxquelles son hôte ne pouvait manquer de se montrer sensible. Une demi-heure après le départ de Pinsard, Prince entra dans le magasin du rez-de-chaussée prit la clé de sa mansarde qui était pendue à un clou derrière le comptoir, et il se dirigeait vers l'escalier quand la voix du marchand de vin l'interpella brusquement. « eh bien, » dit ce dernier, « vous passez bien fier aujourd'hui, citoyen. » Prince se retourna et sourit. « Vous avez donc à me parler ?» demanda-t-il en faisant quelques pas. Le marchand de vin prit un air mystérieux. « Est-ce que vous rentrez chez vous ?» demanda-t-il à voix basse. « Ben, vous le voyez bien. Vous ne sortirez plus ?»« Je ne pense pas. Enfin, vous ne vous découcherez pas cette nuit, mauvais sujet. » Est-ce que cela vous contrarie? Oh, c'est pas de moi qu'il s'agit. Mais de qui donc? Bon, ce serait long à vous expliquer. Seulement, je voulais vous prévenir de pas trop vous effrayer si cette nuit vous entendiez quelque chose d'extraordinaire. Que doit-il se passer? Oh, je sais pas. Bien, vous êtes discret. Mais savez-vous, vous allez m'effrayer avec toutes ces réticences. Voyons, qu'y a-t-il? Que savez-vous? Que dois-je craindre? Le marchand de vin mit un doigt sur ses lèvres, et se penchant à l'oreille de son locataire, il lui raconta sa conversation avec l'agent. « Et quel est, demanda le jeune homme, l'agent qui a si bien combiné ce plan? Il se nomme Pinsard. » Prince fit un mouvement. Une ombre soucieuse passa sur son front. Une seconde même, il parut hésitant et troublé. Mais cette impression fut rapide et fugitive, et il reprit aussitôt possession de lui-même. « Allons, tout est pour le mieux, » dit-il en gagnant l'escalier. « Je monte à ma mansarde, mais je crois inutile d'ajouter que si vous avez besoin de moi, vous me trouverez tout à votre service. » Prince, le lecteur l'a sans doute déjà deviné, n'était autre que Claudine Barrière. Elle monta quatre à quatre les marches de l'escalier, et une fois rentrée dans sa mansarde, elle se prit à songer au parti qui lui restait à prendre.